Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toutes les actus des deux dernières semaines du monde du jeu vidéo, du gaming, de l'industrie. On vous fait des tentatives d'analyse de ce qui s'est passé, des discussions intelligentes, je dis bien des tentatives parce qu'on n'y arrive pas toujours. Je suis Patrick Béja, votre animateur principal, j'espère apprécié, et ce dont je ne doute pas, c'est que vous apprécierez et très effectivement nos co-animateurs d'aujourd'hui. J'ai nommé Guillaume Delalande qui nous rejoint encore une fois après un épisode il y a quelques semaines. Comment
avec
ça va Guillaume?
Avec un nouveau micro, ça va beaucoup mieux comme ça, non?
Mais c'est hein? Écoute, je le disais avant de commencer l'enregistrement, ta voix est envoûtante.
Oui, c'est CNN. Voilà, ça va beaucoup mieux avec un vrai micro.
Très bien, merci de revenir Guillaume, et j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir un camarade qui, avec qui je collabore depuis, on ne compte plus les années maintenant, puisqu'on a avec nous Florent qui met en ligne les émissions que je produis depuis des... Une voiture qui s'est mise à sonner.
Derrière lui.
Oui. les émissions que je produis depuis des années et qui est aussi un membre actif. Je ne sais plus. On débattait du fait de la question est-il actif ou pas. Moi je le trouve de la scène indé de l'ouest de la France.
Oui, bonjour à tous. Oui, on peut actif, on va dire. Oui, en tout cas, comme je dis, je fais des trucs. Après, actif ou pas.
C'est un mec qui fait des trucs, Florent.
Voilà. À partir du tu fais des trucs, t'es actif.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, oui, tu participes à l'organisation d'événements, de salons. Enfin, t'as une vraie passion pour le jeu indé.
C'est ça.
Et tu mets ta passion en action.
C'est ça.
Bon, très bien. On va donc parcourir les news importantes, les news qu'on a sélectionnées de ces deux dernières semaines. Et on va commencer immédiatement avec une news dont je pense qu'elle divise l'opinion mondiale. C'est-à-dire qu'on a entendu il y a quelques jours cette information selon laquelle Nintendo et Netflix seraient en train de travailler sur le développement d'une série Zelda. D'une série La Légende de Zelda, attention, en live action, ça veut dire non pas une série animée, non pas une série en images de synthèse, mais une série avec des acteurs, des décors, tout ça. Et là, alors certains explosent de joie, se disent enfin oui, super, c'est magnifique, et d'autres sont un petit peu plus circonspects. Avant de donner mon avis, je vais me retourner vers les deux camarades, en particulier Florent, tiens, puisque t'aimes les trucs bizarres et un petit peu étranges. Zelda, c'est pas forcément indé, on va dire.
C'est grand public, quand même.
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais l'idée d'un truc live-action Zelda, c'est un petit peu intriguant. Toi, ça te plaît? Ça t'attire? Ça te...
Alors, premier truc déjà que ça me fait penser, faut se souvenir du 1er avril 2008, où IGN avait sorti un faux trailer de film Legend of Zelda. Et typiquement, ça m'en fait penser à ça. À l'époque, ils avaient mis je ne sais plus combien de budget qui était assez énorme dans ce trailer. Et je me dis, s'il y a un minimum de budget, ça peut réellement avoir de la gueule.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est pareil, ouais. Genre le film World of Warcraft, tout le monde a dit, oh, mais pourquoi ils font un film live, ça va être catastrophe. Et de ce qu'on entend, ça va être bien, quoi. Donc, je pense pas que le côté live ait forcément un problème. Faut voir comment ils produisent et les effets spéciaux qu'il y a derrière. Si c'est un chip, c'est sûr que ça va pas le faire, quoi.
Ça va poser plusieurs questions, en tout cas, surtout au niveau des attentes qu'on peut avoir par rapport à ça. Si on attend de voir une adaptation du jeu vidéo à la télévision, tout le monde va être déçu, ce sera pas ça du tout. Les adaptations de jeux vidéo en film ou en série télé, à partir du moment où on veut juste retrouver les mécaniques, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Par contre, si on veut retrouver un univers, là, ça peut parfaitement fonctionner. Et apparemment, ce qui sort de ce que voudrait faire Netflix, c'est d'utiliser l'univers de Zelda pour faire un Game of Thrones familial. Bon, pourquoi pas. S'y mettre les moyens, ouais, ça peut le faire, mais faut tout de suite dire aux gamers qu'ils ne vont pas retrouver des mécaniques, parce que Zelda, c'est je trouve une clé où j'allume des bras zéro dans le bon ordre, et ça, forcément, ça pose quelques problèmes au niveau de la mise en scène, oui. Par contre, si on veut trouver un héros légendaire qui doit sauver la princesse et son royaume vu maintes et maintes fois, bon, ben pourquoi pas. Il y a des personnages qui se sont développés au cours de la saga, même si faut quand même l'admettre que Zelda, c'est à chaque fois un peu la même chose et un peu à chaque fois différent, donc... Bon,
Mais
pourquoi
je sais
pas?
pas, le truc c'est que, bon, oui, bien sûr, s'ils mettent du budget, ils pourront faire un truc qui est techniquement qualitatif. Je reviens juste sur ce que tu disais, Florent. Moi-même, en tant que ancien employé et super grand fan de Blizzard et très impatient de voir le film World of War, enfin le film Warcraft, en lequel j'ai une confiance totale. Il faut pas oublier qu'on n'en a quand même pas vu grand-chose, donc on sait pas. Oui, c'est Duncan Jones et il a une vraie vision artistique et c'est un vrai joueur et tout ça, mais il faut quand même rester un tout petit peu prudent. On sait pas vraiment si ça peut donner quelque chose. Mais bon, peut-être que dans le cas, mais même dans le cas de
Bénéfice
Zelda,
du
je suis
doute, moi je
encore
paye pour
plus.
voir.
Ouais, mais dans le cas de Zelda, moi, le truc, c'est que c'est moi qui manque d'imagination, peut-être, mais je vois pas ce que ça peut donner. C'est comme dire, on va créer un live action pour un film des studios Ghibli. Tu
Ben,
vois, il y
mais,
a des trucs, il y a
oui.
un moment, c'est tellement
Mais
onirique, c'est
c'est.
tellement.
Et
Je
puis,
comprends pas comment ça peut fonctionner en live action, quoi.
on a vu ce que
Mais.
Mario a donné
Oui,
en
non,
live
mais là,
action.
tu vois, c'est l'exemple inverse, quoi.
Non, mais c'est pour le parallèle de un jeu sans, comment dire, sans scénario
Mais.
très poussé, sans scénario très développé, de Zelda.
Non, mais même c'est au-delà de la question du scénario. Moi, c'est vraiment l'univers. Je comprends pas comment ça peut rendre en filmant. Tu vois, il y a des jeux, je vois tout à
Oh
fait, il y
ben
a plein de jeux pour
ça fait
lesquels
quand
ça
même
pourrait
du médiéval
fonctionner.
fantastique, Zelda, c'est
Bah,
quand
oui,
même.
mais non, justement. Pour moi, Zelda, l'univers de Zelda, c'est différent du médiéval fantastique et il y a une dimension onirique, une dimension, en fait, immatériel qui passe plus par le sentiment du et peut-être que c'est moi qui mets trop de sentiments dans mon attachement à cette licence, encore que mon attachement est très relatif par rapport à celui de certains, mais je dis pas qu'ils peuvent pas réussir et si quelqu'un peut réussir vu la qualité de leur production, a priori je pense que ça serait une société
Oui.
comme Netflix, mais c'est juste que je vois pas quelle forme ça pourrait prendre. Mais bon, je serais très
Et
heureux
puis,
qu'on me prouve que j'ai eu tort, hein, mais
c'est quel Zelda aussi? Parce que voilà, si c'est Wind
Oui,
Waker en
c'est sûr.
Toon ou les trucs très réalistes des derniers épisodes, bon,
C'est
voilà.
pas la même chose.
Non.
Bah, après, le problème, c'est vrai que je trouve un jeu vidéo par rapport à un livre, le fait qu'on y participe, on s'y attache peut-être plus, on met plus de nos sentiments dans la façon dont on joue, etc. Donc c'est vrai que. On a un attachement très très particulier à l'œuvre
Ouais.
du fait de nos expériences de jeu. Alors c'est vrai que du coup l'adaptation en film ou en série,
C'est toujours décevant.
voilà.
Bah,
Ah ben c'est
certains
très
diraient
clairement le.
que pour les livres, c'est le cas aussi, parce qu'on n'a pas, on se fait chacun notre propre film pour un livre, alors que pour un jeu vidéo, on a déjà des visuels. Mais je vais
Oui et
dire un truc
non.
qui est, je vais dire un truc qui risque d'être polémique aussi. Zelda, c'est hyper cucu, et ça fait partie du charme de Zelda. Je veux dire les petits oiseaux que tu utilises pour sauver dans différents jeux. Il y a les petits monstres qui sont hyper mignons. Il y a, enfin. Bon, bref, je ne
Ah
sais
oui,
pas
c'est
comment ça
kawaii, on
pourrait
est
rendre, mais
d'accord.
peut-être, hein. Peut-être, peut-être.
Non, mais par contre, il ne faut pas oublier, c'est que mécaniquement, dans le jeu vidéo, le joueur est toujours un co-auteur. Et encore plus que dans un livre, parce que dans un livre, tu suis quand même une trame narrative qui est déjà décidée à l'avance, comme dans un film, dans une série. Dans un jeu vidéo, c'est un peu toi qui te fais aussi ton histoire en changeant certains événements et
Ouais.
en faisant certains ordres que tu veux. Donc
Alors, cette
forcément,
espèce, c'est
l'attachement
sûr
est
qu'ils ne pourront
totalement
pas le.
différent.
Ouais.
C'est pour ça que structurellement, de toute façon, on ne peut pas adapter tel quel un jeu en film ou en série. On change de
Bon,
mécanique.
Quelques infos sur les chiffres des États-Unis d'Amérique. Bon, même pas des chiffres en fait, on va passer vite dessus, mais il y a deux infos intéressantes. D'une part, la PlayStation 4 est redevenue en janvier la console la plus vendue après 2 mois de domination de la Xbox One. Je pense que c'est intéressant à signaler parce que c'était juste le mois où la Xbox One est revenue pendant 12 jours, comme on en parlait la dernière fois, au prix de $400, comparable, enfin identique à celui de la PlayStation 4. Depuis, la Xbox One est redescendue à $350 aux US, et donc il y a fort à parier qu'elle reprenne la couronne de console la plus vendue du mois en février. Mais plus que ça encore, la chose qui m'a intéressé, c'est le fait que la PlayStation 4 et la Xbox One dans leur ensemble ont aujourd'hui une base installée 60% plus importante que l'ancienne génération au même moment. C'est-à-dire que la PlayStation 3 et la Xbox 360, qui déjà étaient dans leur ensemble, si on prend les deux, quand même un succès. Donc il faut quand même relativiser quand on dit telle console se vend bien, telle console se vend moins bien. Dans l'ensemble, cette génération est un succès. Enfin, 60% de plus, c'est très important. Donc voilà, c'est quand même, ça marche super bien dans l'ensemble pour les deux.
Ah ben, il y a une vraie attente, hein, ça c'est sûr. Ça se vend tout seul.
Bah, je pense que c'est aussi générationnel. Enfin, je veux dire, vu que les jeunes actuellement, les jeux vidéo, ça ressemble entre guillemets, normal d'aller acheter une console alors que la génération évolue et du coup, les jeunes actuellement vont forcément acheter une console alors que évidemment, la part de marché grandit de plus en plus. Ça me semble normal.
C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, mine de rien, je pense que les jeunes achetaient des consoles, mais peut-être même, moi je dirais générationnel d'une autre manière. C'est-à-dire que par rapport à il y a 10 ans, on a beaucoup plus d'adultes pour qui l'achat d'une console est évident. Tu dis, c'est la nouvelle, ok, je vais l'acheter, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais je pense que je vais l'acheter parce que c'est passé plus dans les mœurs. C'est difficile à imaginer, mais même il y a 10 ans, c'était pas aussi évident le jeu vidéo. Moi, je me souviens que les critiques du jeu vidéo étaient beaucoup plus acerbes, même il y a 5 ans, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un petit peu plus passé dans les mœurs parce que les joueurs ont grandi et il y a beaucoup plus d'adultes qui jouent.
On vieillit, regarde l'âge moyen du joueur, on a 35 ans maintenant. C'est ça, voilà, ouais. C'est normal.
Ouais, le média a grandi, l'appareil aussi en soi, elles font plus que lecteurs de jeux vidéo, elles font lecteurs Blu-ray, etc. machin, et donc c'est vrai que ça devient...
Bon, ça c'était déjà le cas de la génération précédente.
Le contrôle du salon, ça c'est le mythe de la...
Voilà,
et surtout, c'est ce qui a coulé la Xbox One, donc exactement. Je n'aurais pas si prompt à mettre ça dans le côté savant bien de la balance. Mais...
Et puis, est-ce que c'est les dernières aussi? Grande question.
Les dernières de
console,
quoi, pardon.
Avant la dématérialisation totale.
Ah bon, ça c'est carrément une autre question. Mais...
Voilà.
Justement, à propos de dématérialisation et d'âge moyen du joueur qui est poussé vers le haut, en particulier par les jeux mobiles, parlons un petit peu de jeux mobiles, avec une expérience peut-être, ou un premier mouvement d'Apple pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ce qui est jeu gratuit, freemium et free-to-play, en tout cas sur l'App Store. C'est-à-dire que, vous le savez, hein, bien sûr, les free-to-play représentent l'immense majorité des jeux mobiles. Et ça fait grincer des dents pas mal de gens et pas que des joueurs. Et Apple a fait une tentative il y a quelques jours de ça. Je crois que c'était uniquement sur le store australien, mais il est possible que ça soit répété ailleurs, en mettant une catégorie qui s'intitule « Great Games with No App Purchase ». With no app purchases, ça veut dire des très bons jeux sans achat in-game.
Et acheté une fois pour toutes, quoi. Voilà.
Voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu que vous payez. Oui, il faut le payer, il n'est pas gratuit, mais une fois qu'il est payé, il n'y a pas d'achat en jeu. C'est uniquement le prix que vous avez payé et c'est terminé, vous avez le jeu complet.
Et c'est mieux pour le porte-monnaie, parce qu'au final, généralement, on paye beaucoup plus quand c'est un free-to-play. Final.
Alors, ça dépend. Il y a des gens qui payent. Voilà, c'est ça. Il y a une partie des gens qui payent beaucoup pour les free-to-play. Mais moi, ce qui m'a encore plus marqué, c'est le fait que la réception de cette news dans les cercles de gamers était hyper positive. On avait l'impression que les gens avaient retenu leur respiration pendant des mois et des années face à la déferlante free-to-play. Et ils disaient... bien joué Apple, oui, c'est ce qu'on veut encore plus, voilà, enfin, un moyen de rééquilibrer les choses, machin. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai soulagement, c'est un moyen de remettre en avant les jeux qui ne nécessitent pas d'achat en jeu. Voilà, est-ce que vous pensez, enfin, je sais pas, comment vous voyez la chose, est-ce que ça va avoir des effets, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, comment vous le voyez?
Moi, je trouve ça une très bonne chose. Je vois, en fait, du côté développeur, il y a des développeurs qui, dans leur idée, sont contre le fait de mettre des in-app. Je sais qu'il y en a, c'est un de leurs fers de lance. Donc, ils n'en montreront pas dans toute leur application. Donc, voir que le fait qu'ils n'en mettent pas est mis en avant, bah oui, je pense qu'ils vont réellement apprécier le geste de la part d'Apple. Et il y a des joueurs, pareil, qui... c'est vrai que le problème, quand tu as des in-app, tu sais, est-ce que le jeu est réellement... une progression équitable pour quelqu'un qui ne met pas d'argent dedans, souvent c'est pas le cas.
Mais ça influence le développement du jeu lui-même et la nature du jeu.
Donc c'est vrai que ne pas acheter ce genre de jeu, enfin ne pas acheter ce genre de jeu, ils sont gratuits, ne pas jouer à ce genre de jeu et ne pas perdre son temps sur ce genre de jeu, bah, je trouve ça pas plus mal pour ma part.
Le mot-clé, tu l'as dit, c'est de perdre du temps, parce que toujours dans ces jeux où il faut acheter à l'intérieur, c'est des mécaniques de drogue, clairement, qui sont utilisées. Que c'est, voilà, tu veux avancer, ah, il est bien le niveau suivant. Ah ben non, il va falloir attendre 24 heures ou alors tu payes tout de suite. donc de fait, c'est super frustrant et moi perso, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà. Bah, je suis plutôt content qu'on mette en avant des créations et des titres qui donnent envie d'essayer autre chose que de reprendre toujours les mêmes mécaniques usées et reusées et qui font juste appel aux bas instincts.
C'est vrai que comme on disait dans l'épisode précédent, il y a des gens qui se lamentent de cette influence qu'ont les jeux free-to-play sur l'industrie en général, l'industrie mobile en particulier bien sûr, mais...
Et les effets que ça a aussi sur la grande industrie dans les AAA, parce que...
Aussi.
Il y a un backfire, oui, aussi. Hein, c'est...
Et effectivement, moi je trouve que ce dont on se peut... je vais réussir à parler. Ce dont on peut se lamenter le plus, c'est que non seulement ça a une influence sur l'industrie en général, mais en plus, les développeurs qui voudraient faire du jeu sans achat in-app et sans ce modèle free-to-play sont un petit peu poussés et forcés d'y aller parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et d'une certaine manière, le fait de remettre en avant des jeux comme ça, bah, c'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête. C'est se dire, voilà, ce jeu-là, vous savez où vous mettez les pieds, c'est un type de jeu différent, etc. Et ben, ça permet à ce modèle d'exister. Et ça, surtout, c'est pas que tout à coup les jeux free-to-play vont disparaître. Évidemment, c'est une immense partie du marché et ça va jamais bien disparaître. Bien. Par contre, ça permet de remettre un petit peu d'équilibre et de redonner une existence à ces jeux sans achat in-app, là où ils se faisaient bouffer dans les charts, dans les conseils, dans les partout. Et là, oui. Rien qu'avec une petite décision éditoriale, ça peut leur donner peut-être un petit peu plus d'existence. Et c'est une catégorie qui, on l'espère, non seulement va perdurer, mais en plus va se diffuser un petit peu partout. Et j'irais même jusqu'à dire et à poser la question de me demander si c'est pas le signe d'un mouvement encore plus profond de ce rééquilibrage. Alors moi, je vois un petit peu midi à ma porte avec mon financement par mes auditeurs pour certaines de mes émissions, mais je me dis, c'est vrai que les gens sont en train de comprendre que les services et les jeux gratuits ont forcément ça compense derrière.
Rien n'est gratuit.
Et donc, on revient un petit peu sur des valeurs où, c'est pas qu'on revient, c'est qu'on retrouve, pour certains cas, on se dit, ah oui, dans certains cas, peut-être que je préfère, pour certains types de jeux, pour certains types de services, mettre un petit peu d'argent et je sais où je mets les pieds. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne chose et que ça rééquilibre plutôt que de dire ça va faire disparaître l'alternative.
Après, en soi, est-ce que les gens, tu dis, trouvent que ça va rééquilibrer, etc. Oui et non. Je prends l'exemple en fait d'un ami qui a fait un jeu de puzzle qui est sorti sur Steam et sur les mobiles. Il vend à 2 €. Sur le Steam, ils trouvent les gens, c'est pas assez cher, on est prêt à mettre plus. Donc c'est pour donner une idée. Sur mobile, 2 € pour eux, pour mettre sur un jeu mobile, ils trouvent ça, les gens trouvent ça trop cher en fait. Donc t'as réellement, vu que t'as pas le même public, t'as pas le même marché, et c'est vrai que du coup, les applications payantes sur mobile ont quand même la vie dure, quoi.
Ah bah, y a une destruction de valeur assez incroyable là pour le coup avec les free-to-play. Et quand tu sais aussi que le gros problème quand tu mets ton jeu sur l'App Store, c'est le fait qu'on puisse te découvrir, À part si t'es dans les charts, dans ce cas-là, voilà, c'est bon. Mais sinon, c'est impossible qu'on te trouve. Le fait que Apple fasse une page spéciale pour sélectionner des jeux qui, justement, par certaines qualités de gameplay ou par le fait, justement, qu'ils méritent d'être là parce qu'ils sont bien et qu'on ne paye pas en plus à l'intérieur, je trouve que c'est plutôt bon signe et ça peut mettre en avant certains jeux qui, forcément, ne seraient peut-être pas arrivés là.
Et c'est marrant parce que ça montre le pouvoir qu'a Apple rien qu'en créant une petite catégorie éditoriale. Et c'est bon, on n'a pas de meilleure solution, donc c'est pas forcément une critique. Mais et c'est marrant ce que tu soulèves, Florent, avec la question de Steam, parce que c'est vrai, ça va même plus loin. Il y a, comme tu le disais, parfois 2 € pour un jeu Steam, c'est trop bon marché, mais il y a des développeurs qui finissent par sortir leur jeu d'abord sur Steam en payant, et puis ensuite en mobile, pas souvent en moins cher, voire en gratuit, pour cette raison. Mais bon, disons que l'idée de cette catégorie, on l'espère, c'est de permettre à ces développeurs-là qui veulent vendre sur mobile aussi avec un prix de base, de pouvoir d'en avoir la possibilité. Maintenant, il n'y a pas de doute que la horde des gens qui jouent à des jeux gratuits ne va pas tout à coup se dire tous « Ah bah finalement, les jeux payants, c'est bien aussi. » Mais je pense qu'une partie de gamers qui sont prêts à payer, c'est une petite partie, mais c'est une partie du public qui peut-être faire vivre certains de ces développeurs, bah ceux-là, au moins, comme tu le disais, Guillaume, pourront trouver ces jeux-là, pourront trouver les jeux bien et sans achat in-app, parce que jusqu'à maintenant, c'était très difficile. Autre info sur l'App Store, ils ont aussi autorisé les applications avec de promotion de marijuana légale dans certains pays, dans certains États américains. Mais par contre, il faut plus mettre d'image entre autres, il y en a plein, il y en a plus d'une vingtaine. Mais par contre, il faut plus mettre d'image d'armes dans les screenshots de promo, dans les images de promo de l'app qui apparaît sur l'App Store. C'est marrant de voir cette dichotomie et je trouve que c'est marrant aussi de rappeler, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les Américains sont hyper puritains, machin, Apple impose sa loi et les Américains on peut rien faire. Aux États-Unis, il y a plus d'une vingtaine d'États où la drogue, bon, enfin les drogues douces, hein, mais
la drogue, on parlait tout à l'heure,
la marijuana est autorisée pour des utilisations médicales, tout ça, mais il n'empêche. Donc, j'aime bien souvent remettre en perspective ces choses-là quand on dit « Ah, puritanisme, ils veulent jamais faire ceci, cela et tout », mais bon.
Bon, on ne met pas les mêmes choses, on ne met pas le curseur au même endroit sur certaines choses.
C'est vrai.
C'est très culturel. Puis Apple...
Ah bah, il y a énormément... Apple, non, mais évidemment.
C'est pas faire de vagues, c'est tout. Donc Apple, c'est « Je prends l'avis de la majorité et puis c'est tout ».
Ouais, ce qui peut parfois avoir des effets négatifs, on est d'accord.
Clairement, quand on les choses, c'est sûr, c'est plus compliqué.
Ouais. Peter Molyneux, tiens, parlons de lui un petit peu. Je ne sais pas si vous avez lu ces articles qui sont sortis au cours du week-end, mais pour rappeler un petit peu... Pardon ?
Il a passé un sale week-end quand même.
Oui. Mais en même temps, moi, j'arguerais du fait qu'il
l'a cherché. C'est ça.
Alors en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, Peter Molyneux est un développeur légendaire qui a notamment été à l'origine de jeux comme Populous, Black and White, etc., etc., Fable, tout ça. Et donc, il a deux caractéristiques qu'il caractérise, Peter Molyneux. La première, c'est qu'il est à l'origine du jeu de genre God Game, c'est lui qui l'a créé. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il a une propension à promettre énormément, à partir dans des envolées lyriques sur ce qu'on va pouvoir faire dans ces jeux. Et au final, évidemment, les jeux qui sortent n'incluent pas la moitié des promesses de Molyneux. Alors ça,
c'est généreux, la moitié.
Oui. Alors c'est le genre à vous promettre la synthétisation d'un enfant auquel on s'attachera et avec lequel on le vivra. Voilà, Milo, le chien dans Fable qui serait un vrai personnage qui nous créerait un lien affectif incroyable, la possibilité dans certains jeux de... Enfin bref, c'est l'emphase lyrique telle qu'on l'entend rarement. Et le truc, c'est que quand il promet ce genre de choses sur des niveaux de gameplay, au final, ça n'arrive pas. C'est des jeux, on peut les acheter ou pas. Au final, on fait ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il s'est passé deux choses ces deux dernières années. D'une part, il a lancé un jeu sur Kickstarter qui s'appelle Godus, qui a été financé. Alors, autour de, je ne sais plus, il avait demandé 500 000 pounds et il en a eu... Ou il en avait demandé 400 000 et il en a eu 500 000. Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même une somme raisonnable. Mais bon, qui n'est pas mirobolante non plus, mais c'est pas mal pour le développement d'un jeu, ça peut aider. Et le jeu est sorti, mais comme beaucoup de jeux Kickstarter, sans l'ensemble des fonctionnalités qu'il avait promis. Il y a par exemple la partie Linux qui n'a pas été livrée, la partie multijoueur qui est très 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 en retard, qui n'arrive pas et qui va peut-être arriver, mais on ne sait pas. Mais pour le moment, elle n'est pas encore là, alors que c'était censé arriver il y a des mois et des mois. Et donc ce jeu, c'est Godus, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est aussi un jeu de un God Game. Donc Kickstarter par raté, mais qui ne livre pas les promesses. La différence avec les promesses de gameplay dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, c'était pas des trucs où on vous dit « Bon, ce jeu sera super », après, à vous de juger s'il est super ou pas. C'était « Ce jeu sera sur Linux ». Et là, il n'y est pas sur Linux. Les fonctionnalités multiplayer sont pas complètes, etc. Et l'autre truc qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un autre jeu sur mobile qui s'appelait Curiosity, qui était en fait une sorte de vaste promotion pour Godus, où en fait il fallait taper des millions de fois sur un cube et les tapages de cubes étaient synchronisés sur l'ensemble des joueurs du monde. Et au final, la dernière personne qui tapait sur le cube, le dernier cube, allait gagner le jeu. Et Peter Molyneux disait ça va changer sa vie, ça va avoir des conséquences incroyables parce que, alors attention, il va être le dieu des dieux dans Godus. C'est-à-dire qu'il aura non seulement la possibilité d'influencer tout le monde, l'univers de Godus et tous les dieux de Godus, mais en plus, il gagnera 1% des recettes du jeu Godus. Alors, le petit qui a gagné, qui connaissait d'ailleurs pas Peter Molyneux, qui s'appelle Brian Anderson, était bon, content de voir ce qui se passait. Et il a rencontré Molyneux, tout ça. Et ensuite, plus personne ne l'a tenu au courant. Chez 22 Cans, personne ne l'a tenu au courant de ce qui se passait. Ça fait des mois et même des années. Et bon, maintenant, suite à un article de Eurogamer, on s'est réintéressé au cas de ce type que tout le monde a oublié. Et des promesses oubliées aussi par rapport à Godus. Et là, on arrive à la conclusion. C'est l'interview qu'a donné Peter Molyneux à trois publications différentes, dont The Guardian, en disant « ça y est, c'est fini, je me retire de... ». Ah oui, entre parenthèses, Molyneux avait dit « oui, il faut faire attention avec HoloLens, il ne faut pas trop promettre parce qu'on ne sait pas ce que ça
ah
va
non.
donner ».
Ah non.
Et alors là,
il a vraiment dit ça.
Oui, je te jure, il a dit ça. Et enfin, c'est vraiment, là, on se dit, mais il n'y a pas de honte, quoi. Molyneux qui dit, il ne faut pas trop promettre, c'est quand même. Bon, bref, c'était comique à ce niveau-là, mais ce n'était pas dramatique. Mais cette histoire de Godus est vraiment, c'est plus que juste une petite promesse non tenue. Surtout que, ah oui, cerise sur le gâteau, Peter Molyneux, maintenant, il en a marre de Godus, donc il part. Et il va laisser le développement à l'équipe qui est en place. Lui, il va faire autre chose. Il va faire, je ne sais plus, Strange ou je ne sais plus comment s'appelle son nouveau jeu. Il va laisser le développement à l'équipe qui est en place et dont, d'ailleurs, le directeur du jeu est devenu un fan qui avait été voir les développeurs en disant « Moi, je peux faire mieux que ce que vous êtes en train de faire. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Maintenant, c'est lui qui est en charge du développement. C'était un fan, c'était même pas... Bon, bref. Il donne une interview au Guardian en disant « Bon, c'est fini, je sais que les gens veulent plus entendre parler de moi, donc je me retire et je vais plus parler de rien et on m'entendra plus parce que je sais que les gens en ont marre. Moi-même, j'en ai marre. » Alors, c'est une sorte d'interview, allez la lire, hein, c'est intéressant, mais c'est entre misérabilisme, culpabilité et genre... en même temps, plaignez-moi, et je suis coupable, et je suis désolé, et je ne m'excuse pas.
Voilà, je vais bouder dans mon coin, si c'est comme ça.
C'est ça, exactement. C'est « je vais bouder dans mon coin ». Merci, Guillaume. Tu as parfaitement compris l'essence de cette interview. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire...
Demander à ce que je revienne. C'est un peu ça, c'est l'appel au secours. C'est,
ouais.
Voilà.
Il va
s'arrêter de parler. Allez, on le revoit dans 3-4 mois. Hein.
Bah, surtout qu'au Guardian, il avait dit.
Oui, c'était ma dernière
interview. Il avait dit c'est ma dernière.
Il en a fait deux, trois autres après.
Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas. C'est moi, ça me dégoûte un peu.
Après, c'est un créateur qu'il faut avoir dans l'industrie. Il faut des rêveurs dans cette industrie. C'est très bien. Il faut leur lancer des plans sur la comète. Très bien. Il faut faire rêver. Pourquoi pas? Après, on est dans une industrie qui doit donner des résultats et derrière, ça suit pas toujours. Et c'est pas le seul non plus, voilà, à faire ça. C'est vrai qu'il est surtout coutumier du fait et qu'au bout d'un moment, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc. Est-ce qu'il ne doit pas juste réfléchir au grand développement et laisser le développement à des gens à peut-être un peu plus les mains dans le cambouis, je ne sais pas. Mais voilà.
Le truc, c'est que tout ça, c'est vrai, et il faut rêver, bien sûr, et tout ça, c'est pas ça que je lui reproche. Moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir, d'une part, trahi le pauvre Brian Anderson, à qui il a dit « ta vie va changer, tu vas avoir 1% des revenus, tu as gagné un truc incroyable, machin ». C'est différent quand on dit on promet aux gens « ce jeu sera super » à une sorte de masse. J'écoutais le podcast de Wired où il disait ça, justement. C'est différent quand tu promets à une masse informe « le jeu va être super » et quand tu vas chercher quelqu'un spécifiquement pour le décevoir spécifiquement lui. Donc, il y a ça d'une part. Il y a les promesses sur Kickstarter spécifiques qui ne sont pas des promesses vagues, genre version Linux, tout ça. Oui, le jeu n'a pas l'air d'être... d'être suivi comme ils l'espéraient, et donc ils vont sans doute pas faire leur argent, donc la décision est difficile. Mais bon, le truc Linux, c'est une chose, mais surtout le fait qu'ils se barrent, moi ça me tue, quoi. Le fait qu'ils quittent Godus en se disant bon c'est fini, je m'en fous, et ils vont le finir, vous inquiétez pas, les autres ils vont le finir, enfin ça me, je sais pas, ça, moi ça c'est ça qui m'a fait plus
que... Il était un peu parti comme
que...
ça sur la fin Fable aussi.
Oui, mais Fab, ça n'a pas été financé par les fans qui lui ont dit « Ok, on te file notre argent pour... »
Tout à fait d'accord, que là, il y a eu un changement dans le paradigme de fait que, voilà, t'es... comment dire en français, comptable directement des gens qui sont payés pour toi, quoi, tu vois, c'est responsable, j'avais accountable dans la tête, mais ça a complètement changé, c'est plus un éditeur qui est ton employeur, là, voilà, c'est un peu les joueurs qui sont quelque part tes millions d'employeurs.
Ouais,
c'est vrai que vu son tempérament, moi il me fait penser à Phil Fish, le créateur de Fez, qui était un peu pareil dans le côté plaignez-moi, tout le monde m'en veut. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là avec Molineux. Enfin, je sais que nous, enfin, je vois dans le milieu indé, on s'en moque régulièrement parce que c'est un personnage, mais c'est ça, c'est le problème, c'est un personnage, quoi.
Et en plus, il est charmant quand tu le rencontres et quand tu l'interviews, voilà, il t'embobine, il est formidable. Ouais.
Et pour ce qui est du point du Kickstarter Linux, ça a été un gros problème, je vois, dernièrement. Ça a été un peu le Saint Graal, c'est « notre jeu, regardez, il sort aussi sous Linux ». Et c'est vrai que c'était un peu le pledge facile, et il y a eu pas mal de Kickstarter qui ne l'ont pas, l'ont pas fait à la fin. Donc c'est vrai que faut que les gens se disent, enfin c'est toujours le même problème, faut que ce soit pour un jeu qui soit de Peter Molyneux ou autre, c'est faut être... réaliste dans les pledges qu'on fait et
c'est pour aider le développement, c'est pas une garantie, c'est sûr, mais
il faut se dire que de toute façon on n'arrivera pas à développer un jeu de cette ampleur là juste avec de l'argent de Kickstarter.
Non, c'est pas avec
500 000 livres que tu vas développer un jeu de cette taille là de cette ampleur là faut aussi remettre les choses à leur place. Voilà, on lui a reproché d'aller voir un éditeur après parce qu'il avait promis que ça se passerait juste entre les Kickstarter et lui. Au bout d'un moment, non, on n'arrivera pas à lever.
Il fait très mea culpa dans son interview, mais en même temps, comme vous le disiez tous les deux, mais en même temps, c'est du plaignez-moi. Et en même temps, le truc, c'est que il dit « Ah oui, c'est vraiment... c'est honteux ce qui s'est passé avec Brian Anderson, on l'a pas contacté. » Mais ok, mais c'était toi, gars. Voilà. Qu'est-ce que tu... Je veux dire... Bon, il fait effectivement mea culpa. Et surtout, effectivement, la cerise, c'est qu'il se barre, quoi. Moi, ça me désole.
Bon, c'est old Twitter. C'est, bizarre.
Ouais, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est aussi un rêveur. Enfin... Bon, bref, je vais pas partir sur mon jugement de valeur de Peter Molyneux parce que parlons plutôt de Eurogamer encore une fois qui a décidé de supprimer les notes sur les jeux. Ouais. Alors c'est un débat qui qui est constant dans les jeux vidéo et d'ailleurs dans d'autres médias. Joystick, d'ailleurs, avant qu'il ne disparaisse, on parle pas du magazine français, mais du site américain avec un Q. Joystick Q, avait annoncé quelques semaines avant qu'il soit fermé sans cérémonie par AOL qu'ils abandonnaient les notes. Et donc Eurogamer vient d'annoncer qu'ils abandonnent les notes. Ils motivent leur décision, comme souvent dans ce débat, que d'ailleurs on peut pas faire dans son intégralité. Hein. C'est un débat très complexe qu'on pourrait faire, pour lequel il nous faudrait une heure et demie. Mais ils motivent leur décision de la même manière que Joystick l'avait fait, de différentes manières. D'une part, les notes sont pas représentatives de toute la complexité d'un jeu. C'est vrai que il est compliqué de dire si tel élément ou tel élément sont bons, ou tel élément nous plaise, ou tel élément du charme. C'est difficile de synthétiser ça dans une note. Ensuite, les jeux évoluent au cours des mois aujourd'hui, donc une note, c'est ça fige un truc, et est-ce qu'il faut la revisiter ensuite, c'est compliqué. Donc à la place de ça, ils donnent pas de note, un résumé, moi ce que je trouve très bien, un résumé de ce qu'ils en pensent à la fin, donc quelques lignes, et ensuite des badges qui sont recommandés, essentiels ou à éviter. Donc recommandé, c'est un bon jeu, essentiel, c'est à ne pas rater, et à éviter, ben, c'est un mauvais jeu, sachant qu'il y aura plein de jeux qui n'auront pas ces badges-là, qui seront juste des jeux. Et à noter aussi Metacritic, qui a une importance monumentale dans l'industrie, qui agrège toutes les notes de d'énormément de sites de jeux vidéo, et pas que de jeux vidéo dans le monde entier. Et surveillé par les éditeurs, et on a même entendu des exemples d'éditeurs qui mettaient des objectifs à leur développeur, à leur département communication, d'obtenir des scores métacritiques qui soient supérieurs à une certaine note pour avoir leur bonus ou pour être mieux payé, etc. Donc c'est vraiment une importance fondamentale. Et en plus, Metacritic amène du trafic sur les sites en question, parce que les gens vont voir les notes générales sur Metacritic et cliquer sur la review pour lire le truc. Donc Eurogamer disparaît de Metacritic là, en prenant cette décision. Donc c'est une décision qui est vraiment pas facile. Mais pas de Google, bien sûr, évidemment, puisqu'ils ont gardé une sorte de notation qui n'apparaîtra nulle part ailleurs que sur Google, parce qu'ils disent sans Google, de toute façon, on ne peut pas exister. On a besoin de Google. Donc il y a une sorte de notation virtuelle,
automatique,
équivalence automatique. Deux choses avant de vous donner la parole. Premièrement, pour les films, généralement on met pas de notes et ça se passe très bien. Moi je trouve ça parfaitement.
Il y a des magazines qui mettent des pouces, des étoiles ou des trucs.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un truc qui est aussi important que dans l'industrie du jeu vidéo. Moi je pense qu'on peut passer des jeux en revue sans mettre de notes. Et d'autre part, moi j'ai toujours eu une certaine aversion pour les notes, et je fais souvent, d'ailleurs ceux qui écoutent Positron le savent. Je dis soit c'est pour les fans de ce genre-là, soit c'est tellement bien que c'est pour tout le monde. Transcende le genre, mais je mets pas de notes dans les reviews que je fais. Donc moi j'ai plutôt tendance à apprécier. En même temps, je comprends que les gens veuillent un moyen facile de savoir ce que vaut le jeu, quoi. Mais je trouve que les notes ont plus d'effets négatifs que positifs. Donc je pense que c'est bien qu'il y en ait aussi qui fassent pas de notes.
Écoute, jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais exactement du même avis que toi.
D'accord.
Disant que le jeu vidéo, il y a largement, c'est comme le cinéma, les livres, on met pas des notes, voilà. Le plus important, c'est d'avoir une critique, un avis personnel, une vision artistique, très bien. Puis j'ai vu sur YouTube la vidéo de Un Drop dans la Mare, que je vous conseille absolument d'aller voir, qui en 8 minutes explique pourquoi on a besoin de notes et quelle pourrait être une nouvelle notation très intéressante pour l'avenir de cette industrie. Alors pourquoi on a besoin de notes? Parce que au-delà de l'aspect artistique sur lequel on est tous d'accord, c'est quand même une industrie très lourde et la première industrie de l'entertainment, parce qu'au-delà de l'artistique, c'est quand même de l'entertainment, avec beaucoup de gens qui achètent les jeux pas forcément pour eux et qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort d'aller lire des critiques qui peuvent être longues, etc. Donc je peux comprendre qu'il y a un besoin d'avoir un élément de référence, voilà, de différenciation des jeux qui sortent, vu la masse de tout ce qui sort. Après, il faut arriver à faire un système de notation qui soit pas, qui dise pas ce soit bon ou mauvais, qui fasse juste, qui dise voilà ce que c'est sans jugement de valeur derrière. Et ce qu'ils ont proposé, c'est en fait des échelles relatives à chaque fois. C'est-à-dire que sur chaque élément, donc le graphisme, le scénario, le mode en ligne, etc., etc., une échelle horizontale sur laquelle il y a trois éléments. Au milieu, c'est, voilà, c'est, sur ce point, c'est... ça correspond au standard actuel de l'industrie, ou si c'est un petit peu plus à droite, ou si c'est un peu moins à gauche. Exemple, voilà, sur le dernier Assassin's Creed, les graphismes ont été vraiment poussés par rapport à la norme actuelle, donc sur cette échelle-là, ce serait un petit peu plus à droite. Après, chaque chose sur le scénario, est-ce qu'il a été travaillé, etc., etc. Et il finirait sur un dernier critère qui me semble très pertinent dans le jeu vidéo moderne, comme dans la façon dont on nous vend les jeux aujourd'hui, c'est la réponse aux attentes créées. Parce qu'avec tous les buzz qu'on nous fait, qu'on nous survend un jeu, on en parle 2 ans avant, et on se dit, oui, voilà, on nous a promis, on parlait de Molineux, c'est exactement ça. Et donc, ce dernier critère, ce serait, est-ce que le jeu qu'on nous donne à la fin correspond à l'attente qu'on nous a créée. Et je trouve ce système de notation assez rafraîchissant. Allez voir sur YouTube, la vidéo a été postée il y a 3 semaines, et ça me fait vraiment réfléchir sur le fait que, ouais, on a besoin d'un système de critères qui ne soit pas un jugement de valeur, mais qui permettent justement de voir si un jeu s'inscrit dans ce qu'il fait, s'il est dans la moyenne ou s'il va plus loin sur certains points précis. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est... Alors, je vais répondre après. Je vais répondre après. Je vais demander... j'ai déjà mon avis sur la chose. Je vais demander à Florent si ça le séduit, ce système, et si tu as une idée en général sur la question des notes de jeu.
Déjà, c'est très drôle parce qu'il y a 10 jours, j'ai pu voir un débat de la critique cinéma sur Internet avec notre ami John Pisken. Et du coup, on a déjà eu ce débat sur, déjà, dans le média en général, est-ce qu'avoir une notation est intéressant. Déjà, je pense, pour moi, dans le film, ça se débat, et dans le jeu vidéo encore plus, parce que comme tu l'as dit, Patrick, avec tout ce qui est Early Access, etc., déjà, il y a une review d'un jeu à un temps T, à un temps T plus 1, elle peut largement évoluer parce que le jeu avant il est en Early Access, après il sort, etc. machin. Donc c'est pour ça que certains sites déjà font, genre, je voyais Polygon avait fait des reviews en early quand ils ont le jeu, etc., les premiers retours, et après, dès que le jeu sort, parce que le jeu a pu évoluer et complètement changer. Donc déjà, il y a aussi ce côté-là, faire peut-être plusieurs reviews. Oui. Et du coup, c'est vrai que à cause de ça, moi, avoir une note, c'est vrai que je suis plus du côté de Patrick. Ça me semble très bancal, on va dire, comme manière de voir les jeux. Et c'est vrai que c'est comme on parlait pour la critique du cinéma sur Internet. Les gens aussi, après, ne lisent plus les critiques. Et c'est juste une notation, et se refaire juste à une notation. Alors,
on est tout à fait d'accord sur l'aspect note.
C'est pour ça
que
aussi, ce
nombre
que tu
d'étoiles, là-dessus, il n'y a pas de problème.
Sur l'échelle, en fait, c'est ça. C'est en même temps avoir une échelle de différents critères, c'est en même temps faire une critique dans un certain sens. Mm-hmm. Donc ça reste quand même une critique, même si elle est super succincte. Mais c'est ça qu'il faut garder, parce que pour moi, une note, on me dit 17 sur 20, et après un nom de site qui a mis la note, c'est ce qu'on voit sur les affiches de ciné. C'est un truc qui est aberrant.
Il faut que ça disparaisse, c'est très vite, ça. Ouais. On n'est plus à l'école,
voilà.
Quoi.
Les mecs, et là, c'est le même problème.
C'est plus un média d'ados boutonneux qui vont à l'école et qui ont des notes à la fin de la semaine. Donc on a l'impression qu'on en est encore là dans le jeu vidéo. On a besoin de notes.
Un petit peu, ouais.
Franchement, on est au collège, quoi. Ça va.
Mais, ouais, fini Florent et puis je vais...
Non, mais c'est bon.
D'accord. Bah, sur la question, je suis assez d'accord, bon, avec, d'une manière, vos deux analyses, mais en même temps... La caractéristique d'un drop dans la mare, ils sont bien, mais je trouve qu'ils font souvent des analyses un poil faciles, en ce sens que... Non, pas facile, c'est pas vrai, mais séduisante au premier abord. Et puis quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que...
Alors creusons,
t'es pas convaincu que ça va fonctionner. En l'occurrence, cette histoire de note relative, oui, c'est intéressant, et peut-être que c'est une bonne réflexion sur le chemin d'un bon système de notation, mais D'une part, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Il faut quand même sortir le manuel à chaque fois que tu veux comprendre les notes dont il parle. Le machin relatif, oui, mais alors relatif à la moyenne, mais la moyenne de quand ? D'une part, la moyenne évolue, et puis ensuite, est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup mieux, un peu moins bien, machin ? Enfin, une personne normale dont tu parlais à l'origine, ce que je comprends tout à fait, qui a besoin de comprendre facilement la valeur d'un jeu pour savoir s'il veut l'acheter ou pas, surtout que les jeux sont très chers, quand ils viennent de sortir, je pense aux gens qui veulent faire des cadeaux à Noël, machin, tout ça. Évidemment, ils vont pas attendre les soldes sur Steam. Donc, oui, on a besoin d'un machin facile à comprendre. Et du coup, tout de suite après, on se contredit en disant il faut un truc relatif pour le scénario. Est-ce que c'est bien par rapport au standard actuel, machin ? Comme je disais, il va falloir sortir le manuel de compréhension des notes relatives pour pouvoir juger de la valeur du jeu. C'est pas le but. Et d'un autre côté, toute cette description que tu fais avec des convoluted, comme on dit en anglais, systèmes de notation par rapport au standard actuel, finalement, est-ce que c'est pas plus simplement résumé dans un petit texte de, je sais pas, un petit paragraphe de 200 ou 300 signes qui va nous résumer ce qu'on pense du jeu. Et moi, à mon avis, il est beaucoup plus simple de se dire, tu lis les trois lignes sur le truc et tu comprends ce que c'est pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ce que c'est. Et puis il y aura toujours, je pense qu'il y aura toujours des notes, il y aura toujours des sites pour faire des notes chiffrées, ça existera toujours. À la limite, pour moi, les reviews sans notes, c'est intéressant pour les gens qui sont vraiment amoureux du jeu vidéo, qui veulent savoir vraiment ce que vaut le jeu et pas juste le résumé à une note. Donc, les gens qui vont faire leur course à Noël, ils auront toujours besoin des notes. Mais nous, il faut qu'il existe aussi un système où les notes ne sont pas le focus de notre appréciation des jeux. Et je reviens à la question de l'équilibre. On parlait de l'équilibre entre free-to-play et jeu payant qui doit exister. Et là, on a un déséquilibre en faveur du free-to-play, en particulier sur les mobiles. À mon sens, il faut aussi un équilibre entre noté et non noté, entre noté et expliqué. Et aujourd'hui, on a un énorme déséquilibre en faveur des notes. Tout le monde note. Donc voilà, moi je dirais plutôt
avec un jugement de valeur qui est attaché à la note, et c'est ça qui est compliqué, parce que un jeu ne peut être très mauvais sur un point très précis, mais mériter l'achat parce que il développe une autre qualité ailleurs.
Ouais, exactement. Et il y a des jeux.
Tu fais quoi dans ce cas-là? Tu mets deux notes, tu mets trois notes, tu fais quoi?
Voilà. Il y a des jeux qui sont, des jeux qui sont objectivement assez pourris, mais qui plaisent quand même, qui nous plaisent quand même personnellement. Il y a des jeux qui ont d'énormes défauts. On peut penser par exemple à, je sais pas, ça me vient à l'esprit maintenant, mais je pense à Dead Island, parce que Dying Light, du même développeur, avec les mêmes défauts, vient de sortir. Dying Light était un jeu qui avait énormément de problèmes. Dead Island était un jeu qui avait énormément de problèmes de design, de technique, etc. Mais qui, moi, m'a bien plu et qui a bien plu à pas mal de gens. Comment t'expliques ça en une note ? Donc, Tu vas, bon, moi c'est pour ça que je préfère la question de recommander aux gens qui aiment le genre, ou alors sublime, genre Dying Light, peut-être que tu peux le recommander aux gens qui aiment ce type de jeu, mais par contre un jeu qui est beaucoup mieux, qui transcende le genre, sera recommandé à tout le monde, genre Resident Evil par exemple, à l'époque bien sûr, mais Florent,
avoir des notes, c'est vrai que du coup j'ai repensé à la discussion qu'on a eu sur le cinéma. Qu'un site fasse des notes, etc., on voit pas trop l'intérêt. Avoir la note globale, ça peut être intéressant pour un peu, note ou critère bon, très bon, etc., pouvoir en globalité ce que pensent les médias ou ce que pensent les joueurs du jeu, mais juste pour avoir un peu la température, quoi. Là, ça peut être intéressant pour vraiment, genre, les trucs à éviter, même pas s'y intéresser, quoi.
Ouais.
Mais c'est juste un premier pas. Après, il faut qu'il y ait des critiques et que derrière les gens lisent des critiques ou lisent des reviews de jeux.
Les gens qui s'y intéressent, oui. Mais je comprends, les reviews existent.
On va pas se leurrer non plus. Hein. Voilà, les gens qui vont aller lire des critiques consciemment et avant de faire un acte d'achat, si on arrive à 10% de toute la population des gamers, on sera content. Hein.
C'est ça. Donc c'est bête.
Mais pareil pour le cinéma. Hein. Ouais. Il y en a combien qui vont aller lire Télérama avant d'aller choisir un film ?
Non, mais par contre, il est possible de... Enfin, c'est pour ça que tu veux pas forcément lire une review de 3 pages si tu veux juste savoir, c'est pas un jeu qui est ta passion, tu veux juste savoir ce que ça vaut.
Si tu... Aussi, enfin, tu vois,
si tu... Non, mais au-delà de ça, c'est juste un jeu dont tu veux savoir s'il est intéressant de s'y intéresser, tu vois. Et donc, tu n'as pas envie de te taper trois pages. Donc, un petit résumé à la fin, c'est idéal. Voilà, c'est décidé, c'est réglé, c'est facile.
C'est pour ça que j'aime bien, il y a certains magazines qui font ça. Ce jeu plaira à tel type de joueur. Voilà, ça, c'est très bien, pour le coup.
Exactement. Bon, des chiffres un peu, c'est encore la saison. On va passer très vite dessus, mais il y a des choses intéressantes, comme toujours dans ce genre de domaine. Ubisoft qui a un chiffre d'affaires en 2014 pour le quatrième trimestre 2014 de 810 millions d'euros, 50% de plus qu'en 2013. Donc, Ubisoft, c'est des Français, on aime bien.
Et
10 millions d'Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Rogue vendus, 7 millions de Far Cry 4, 10% au-dessus de leurs prévisions, et 2 millions de The Crew quand même, qui est finalement un peu passé inaperçu, mais 2 millions de The Crew, ils ont atteint leurs objectifs de 2 millions en avance, donc tout est au vert chez Ubisoft, comme quoi le ratage du lancement de Assassin's Creed Unity ne leur a pas trop fait de mal. Je vais passer sur certains chiffres. Il y a quand même le revenu numérique qui est important en particulier avec des jeux indépendants, ça va faire hurler Florent,
des maisons,
mais un des maisons comme Child of Light ou Soldat Inconnu. Leur vente, tiens, encore des chiffres, les parts chez Ubisoft, 34% de vente sur PlayStation 4, 20% sur Xbox One et 13% sur PlayStation 3 et 13% sur Xbox 360, 11% sur PC, 4% sur Wii et, attention, Wii, hein, pas Wii, 4% grâce à Just Dance, voilà, grâce à Just Dance qui est toujours très populaire, et 2% sur Wii U malheureusement. Ils se gardent un petit jeu, un party game visiblement en stock pour quand il y aura plus de Wii U installés. 2015-2016, Assassin's Creed, a priori Assassin's Creed Victory, dans l'Angleterre victorienne, The Division, Rainbow Six Siege et un film Assassin's Creed qui est en production, on en avait entendu parler. Il semblerait qu'ils aient signé Marion Cotillard et Michael Fassbender.
Oui, Marion Cotillard.
Voilà. Pourquoi pas ?
Faudrait pas qu'elle meure dans le film, c'est tout.
Le réalisateur
dans le film, Marion, c'est juste ça, parce que sinon ça va faire une scène catastrophique.
Une scène, pardon, j'ai pas entendu. Vas-y, Guillaume, répète.
Il faudrait pas qu'elle meure dans le film.
Ah oui.
Voilà. Mais,
d'accord. Pourquoi tu disais, je comprends pas, parce qu'elle meurt dans les autres films ou...
Non, parce que dans le film de Batman, sa scène où elle meurt était complètement catastrophique.
D'accord, je comprends.
Tout Twitter.
Ok. Bon, espérons qu'elle meure pas.
Non, parce qu'a priori, en fouillant un peu, il y a un deal que si le film ce serait signé
qu'ils
pour
en feraient
plusieurs
plus qu'un,
séries, et donc elle serait là aussi avec Fassbender sur les autres films à voir. Donc par a priori, exemple. Elle ne meurt pas, ou si elle meurt, elle ressuscite. Donc,
ce qui est toujours possible aussi. Florent. Voilà.
Donc le réalisateur là, Justin Kurzel avait fait, enfin le film va sortir parce qu'il n'est pas encore sorti, qui est Macbeth et qui est déjà en fait avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Donc le choix des deux acteurs n'est pas au hasard.
Tout le monde se connaît. Mmh. Voilà les trois.
Voilà c'est ça.
Les deux acteurs et réalisateurs se connaissent bien. C'est un film assez chaotique. On en parle depuis quelques années quand même déjà. Le projet a beaucoup changé de main, de production, de writer. Il y en a eu trois différents. Mais là, ça y est, on y arrive sur un truc qui apparemment est fixé. Le tournage va commencer là cette année. Et pour une sortie, si je me souviens bien, c'est décembre 2016. Donc pour la
quelque
sortie,
chose comme ça,
sortie synchronisée avec l'Assassin's Creed de 2016. Donc voilà. Wait and see.
C'est... Ouais,
complètement. Un truc super important par contre qui change totalement de toutes les adaptations des créations de films à partir de jeux vidéo. Et là aussi ça date d'il y a quelques années, j'en parlais déjà dans mon livre il y a 3-4 ans. C'est le fait que Ubisoft ait un contrôle total sur ce qui va sortir de ce film. C'est-à-dire que généralement, c'est un studio de cinéma qui achète une licence et voilà, je vais adapter tel jeu et j'en fais ce que je veux. Si je veux chier dans la colle, il y a pas de problème. Là forcément la poule aux œufs d'or, Ubisoft non, c'est moi qui vais produire. Donc ils ont Ubisoft Motion Pictures. Ils se sont quand même associés, donc là pour le coup au début ça devait être Sony mais ça a changé. Donc là maintenant c'est New Regency et ce sera distribué par la Fox. New Agency qui met l'argent, mais c'est Ubisoft qui garde le contrôle total. Donc, on peut se dire quand même que ils vont pas s'auto-chier dans la colle, ou alors il y a un problème. Mais en tout cas, ils ont le contrôle de ce qu'ils veulent mettre, de ce qu'ils veulent faire, ce qui peut on peut espérer augurer d'un fait que on puisse croiser les intrigues avec le jeu qui sortira à ce moment-là, ou si ça se trouve, on a déjà des indices dans les jeux précédents depuis quelques années, qui sait, parce que finalement, le scénario est peut-être écrit depuis un moment. Donc voilà, je pense que ça peut, ça augure de choses très intéressantes qui peuvent se croiser sur tous les médias.
Ouais, peut-être une résurgence du film et de la série de jeux vidéo. C'est vrai que, comme on le disait en début d'émission, le public a grandi et il est mature et prêt non seulement à recevoir ce genre de production, mais en plus à les faire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui en âge de créer ce genre de choses plutôt que de les laisser aux gens plus âgés qui, entre guillemets, savent ce qu'ils font. Et puis, accessoirement, Assassin's Creed, je peux plus le voir en film que Zelda.
Mais c'est un univers qui existe de toute façon, qui s'adapte sur toutes les périodes historiques passées de toutes les civilisations et qui a aussi des effets dans le présent. Enfin, ils ont imaginé tout un monde parallèle où il se passe des trucs dans tous les sens. Donc, ça fait sens dans n'importe quelle époque et dans le présent aussi. Ouais. Donc, pour le coup, voilà, l'univers existe et est très facilement adaptable au cinéma.
Ouais. Et ils avaient déjà fait donc du coup le film Prince of Persia avec Disney. Et je pense qu'ils sont
ils n'avaient pas le contrôle du tout. Alors.
Voilà, un peu comme Marvel, en fait, c'est plus rentable de faire nos studios et à l'image de Marvel qui maintenant. Depuis qu'ils ont leur propre studio, ça marche l'enfer. Je pense qu'ils se disent que pourquoi pas nous.
Et tu remarqueras qu'il n'y a plus de Prince of Persia depuis le film, de jeu, depuis le film.
Ouais. Non, mais moi, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. C'était pas Mario Bros, Prince of Persia, tu vois.
Non, bien sûr.
Mais bon.
Et ils t'expliquent qu'à cause du film, ils n'en font plus. Ça a cassé la marque.
Bon, les autres scénarios catastrophes, Candy Crush Saga ont dépensé 1,3 milliard de dollars dans les in-app purchases de 2014. 1,3 milliard de dollars.
On met ça en perspective par rapport au nombre de jeux AAA, par exemple. Si vous faites un jeu à 60 euros, ça fait 20 millions de jeux sur une année. Un Assassin's Creed, c'est 10 millions. Donc là, c'est l'équivalent en une année de deux années d'Assassin's Creed, toutes plateformes confondues. D'autres questions ?
Et les analystes disent que le président de Zynga, Don Matrick, qu'on connaît bien puisque c'est l'ancien président de la division Xbox de Microsoft, qui est parti suite au four de la Xbox One,
juste
au lancement en tout cas, enfin le lancement, le pré-lancement. Voilà. Donc, il est parti chez Zynga et là, les analystes disent « Ah bah, ça suffit, il faut qu'il s'en aille. Pourquoi ?» Et là, on rentre dans le monde merveilleux des analystes parce qu'il ne fait pas assez avec les franchises existantes, Farmville, World with Friends, Zynga Poker, etc. Il essaye de faire des trucs nouveaux et donc, c'est pas bien, ça rapporte pas assez d'argent. Et là, vous vous dites « Ah bah oui, c'est n'importe quoi les analystes. Il faut pas essayer des trucs nouveaux, il faut se concentrer sur toujours les mêmes licences, les ressortir jusqu'à plus soif, comme Candy Crush Saga et Candy Crush Soda Saga, etc. qui marche très bien aussi d'ailleurs. Voilà pourquoi le jeu vidéo est en pente descendante. Et en même temps, ce qu'il a fait, le joyeux Don Matrick, c'est qu'il a acheté le développeur Natural Motion qui avait fait un jeu qui s'appelle Clumsy Ninja. Je ne sais pas si vous connaissez Clumsy Ninja. Moi, j'en ai entendu parler vaguement au moment où il l'a acheté. Il a disparu de la mémoire de tout le monde. Il l'a acheté pour 527 millions de dollars.
Quand même.
Donc on peut comprendre que les analystes soient pas super contents. Peut-être qu'il y a une voie du milieu pour faire des choses, les choses un petit peu différemment. Bon, ça sent pas super bon pour le pauvre Don Matrick. Il a pas l'air de réussir là non plus. Donc
pas vraiment la baraka. Hein. Il enchaîne. Là.
Quelques news en vrac qu'on va citer pour terminer. Alors, d'abord, la 3DS XL, je le cite juste comme ça parce que tout le monde sait que j'adore Nintendo, mais que j'aime me moquer d'eux gentiment de temps en temps. Si vous voulez acheter une new 3DS qui est sortie il y a quelques jours, n'oubliez pas que la technologie Nintendo super avancée ne permet pas le transfert de compte par Internet. Donc, il faut que vous ayez vos deux consoles l'une à côté de l'autre pour faire votre transfert, physiquement. Et donc, les chaînes qui vous proposent l'échange de consoles, en reprenant à un certain prix votre ancienne console, ça fonctionne pas vraiment parce qu'il faut que vous ayez les deux consoles en même temps pour faire le transfert. Donc, aux États-Unis, GameStop a créé un système complètement invraisemblable où vous achetez la première, puis vous faites le transfert, puis vous revendez le truc, et puis ensuite vous le rachetez grâce au bon de trucs c'est que vous pouvez avoir pour revendre l'autre aussi. Enfin, bref, c'était juste le petit clin d'œil à Nintendo pour
ça. Il serait peut-être temps de faire un compte une fois pour toutes et qu'on puisse retélécharger comme partout ailleurs.
Il est vraiment, vraiment temps, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'audio binaural je ne sais même pas comment ça se prononce en anglais.
En français, on va dire binaural.
Binaural, ouais.
Vas-y, explique.
Alors, c'est une technique, en fait, qui est en train d'être redécouverte. C'est bien binaural, hein, en français. Qui est en train d'être redécouverte aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle. C'est une technique d'enregistrement du son dans laquelle on met un seul micro, ou pardon, deux micros, avec à côté des micros, une sorte d'accessoire en forme d'oreille, de manière à ce que le son rentre dans le micro de la même manière qu'il rentre dans vos oreilles. Ah. Et du coup, ça crée des effets de spatialisation du son qui sont encore meilleurs que le 5.1, le 7.1, le machin, qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont plus naturels. Et ils sont en train d'être redécouverts à cause de la réalité virtuelle, et donc ils risquent d'être ajoutés aux casques de réalité virtuelle quand ils vont tous se mettre à sortir. Et il y a des articles sur Polygon et sur The Verge qui traitent de la chose. C'est intéressant comme effet. C'est vrai que ça donne un son relativement naturel. Donc,
Mais j'ai regardé la vidéo aussi. C'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Et je me dis que c'est vrai que avec... C'est tout bête, quand t'as un Oculus Rift, après, il faut que le son soit derrière aussi bon. Donc c'est vrai qu'avoir un système comme ça, du coup, vu que ce qui est intéressant, c'est que tu peux pas avoir un 5 points évidemment autour de toi quand tu es avec ton Oculus Rift, alors que là c'est réellement pensé pour du stéréo, donc c'est nickel.
Alors correction, tu peux avoir un 5 points dans ton casque. On a vu un casque au CES qui faisait ça. En fait, il y a un tracker sur ton casque et en tournant la tête, justement, le son se spatialise différemment. La technologie marche et c'est plutôt impressionnant pour le coup.
Mais oui, bon, elle est, je veux dire, dans le sens que c'est là, l'avantage, c'est que du coup, n'importe qui, avec son ordinateur de base, peut déjà le faire. Et,
ouais,
tout à fait.
C'est ça l'intéressant. C'est plus.
C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est marrant de voir que l'audio bénéficie aussi de cette vague réalité virtuelle qui arrive. Valve va revenir sur les Steam Machines. Oh mon Dieu! la GDC 2015 qui est la Games Developer Conference, il semblerait qu'il y ait pendant la GDC qui se tient du 2 au 6 mars, donc dans pas longtemps, dans 3 semaines, une présentation de la nouvelle version des Steam Machines, donc tout n'est pas perdu. En parlant de conférence, à l'E3, Bethesda va faire sa première conférence de l'histoire de l'E3. Il n'avait jamais fait de conférence avant. Alors, tout le monde a dit, c'est sans doute pour annoncer Fallout 4, a priori, ça serait pour ça. Certains ont parlé ça y est, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle ce jeu avec Cordo, Vardo Ah là là, mais le jeu dans une sorte d'Angleterre victorienne steampunk. Dishonored, merci.
Ah oui, voilà, c'est des Français, merci, donc c'est Arcade
Lyonnais. Oui.
Exactement.
Lyonnais qui avait fait ça.
Peut-être Dishonored 2, qui avait fonctionné gentiment, Dishonored.
Ouais, c'est bien.
Est-ce que vous avez regardé les 18 premières minutes de Bloodborne qui ont été publiées sur IGN il y a presque 10 jours?
Oui, mais c'est pas du tout mon genre de jeu. Donc j'adore l'univers, mais le côté horreur, moi, c'est pas du tout mon délire.
C'est pas ton truc.
Pas mieux ici.
Moi, je les ai regardés avec, j'en avais parlé dans l'émission, l'espoir en fait que Bloodborne me permette de rentrer dans l'univers de ces jeux à la Demon's Souls, Dark Souls, super difficile. Et j'avoue que ça m'a fait un peu peur les premières 18 minutes de Bloodborne, parce que j'y ai pas trouvé du tout j'ai pas trouvé en fait quoi que ce soit, j'ai pas trouvé de petite étincelle d'envie, j'ai pas compris pourquoi c'était intéressant. Il y a même pas la difficulté dont on nous parle dans, je suis sûr qu'elle arrive à un moment, hein, et peut-être que justement c'est bien d'avoir un début qui soit pas complètement impossible, qui soit pas décourageant, mais
c'est une vraie courbe d'apprentissage.
Ça m'a un peu inquiété, quoi.
De ce qu'on a vu, enfin, dans les 18 minutes, le gameplay a l'air très basique. Alors ils ont gardé un peu le côté, tout le côté s'il y a des pouvoirs, etc. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment pas voulu montrer ça. Donc c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu des images, ça me donne pas vraiment envie d'y jouer. L'univers est cool, mais niveau gameplay et tout, c'est super classique. Côté évolution de son équipement, etc. On tue des monstres et voilà. Enfin, comme tu dis, il y a pas la petite étincelle, quoi.
Je me demande si c'était le meilleur moyen de présenter le jeu à des gens qui ne sont pas rentrés dans les univers précédents, et même à ceux qui en étaient fans, parce que ça a l'air de se départir des Dark Souls, Demon's Souls, par sa difficulté qui n'est pas au rendez-vous. Donc peut-être qu'il y aura d'autres types de présentations ensuite, mais bon, si vous avez des raisons pour lesquelles on peut être excité pour Bloodborne, venez nous le dire sur frenchspin.fr, sur le blog de l'émission. J'aurais curieux d'entendre votre avis. Mortal Kombat X ou 10, bon, je ne sais pas si c'est 10 ou X, qui a été testé et qui est toujours aussi sanglant. C'est marrant, Mortal Kombat, parce qu'il est passé dans les années 90, d'un truc tellement sanglant que c'était trop violent et qui était genre réaliste et violent réaliste, parce que c'était un des premiers jeux avec des photos d'acteurs et du sang, avec tellement de profusion.
Il a fallu mettre le fameux sang en vert sur les consoles Nintendo à l'époque.
Exactement, ouais. Exactement. Et en fait, là, aujourd'hui, ils en font énormément, mais c'est kitsch et c'est en même temps dégoûtant, quoi. C'est vrai qu'ils en font tellement, détournes les yeux de l'écran et en même temps, tu rigoles et il y a une sorte de jouissance de la violence de Mortal Kombat.
On arrache la colonne vertébrale, on te casse le crâne. Enfin,
non, mais c'est pire. C'est genre, il y a la scie circulaire qui tourne sur le sol et tu pousses la tête du mec vers la scie. Enfin, c'est horrible.
Bon appétit,
horrible.
Si vous êtes à table.
Voilà. Mais en même temps, c'est encore un de ces jeux où je me dis je vais réessayer. Mortal Kombat 9 était pas mal du tout, selon les reviews justement, et là il y a un truc que j'aime bien et que je voulais signaler justement aux auditeurs dans cette série, c'est que depuis le 9 en tout cas, il y a une partie single player, une partie en solo qui est vraiment développée et qui a une vraie existence, et c'est ce qui manque, je trouve, dans les jeux de combat. Malheureusement, moi j'aime beaucoup les jeux de combat, mais j'ai plus les potes qui viennent se poser sur le canapé pour jouer ensemble. Et là, la partie solo, moi, risque de me motiver à l'acheter parce que ça offre une alternative aux jeux compétitifs, quoi.
Tu m'as donné envie d'essayer, tiens.
Et comme tu le dis, le fait qu'il y ait une action avec l'environnement, ils reprennent ça de leur dernier jeu qui est Injustice. Avec les héros de DC.
Les super-héros de DC, ouais.
Et du coup, pareil, il y avait cette dimension-là qui était assez intéressante. J'ai vu des matchs au Stunfest, donc avec des vrais joueurs, des gens qui s'y connaissent en jeu de combat, c'est-à-dire pas moi, qui jouaient. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Et pareil, pour quelqu'un qui regarde, c'est un peu plus divertissant, on va dire.
Ouais, c'est vrai que c'est spectaculaire, quoi. Life is Strange, alors on en parlait dans les épisodes précédents et on a un fan absolu de Life is Strange. C'est un jeu qu'on met peut-être un petit peu plus en avant parce que c'est un jeu français, mais c'est aussi un jeu vraiment intéressant. Guillaume, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Il est sorti, il est disponible, jeu épisodique, le premier épisode est disponible et la démo est disponible aussi.
À télécharger donc partout, clairement, sur le PSN, sur Xbox Live, sur votre PC, sur Steam.
Je sais pas s'il y a une démo sur Steam.
Je sais pas s'il y a la démo, mais elle est disponible en tout cas.
Oui. Alors c'est quoi ?
Les jeux vidéo qui appellent à la rêverie sont rares. Ne serait-ce que pouvoir se poser rien que dans cette ambiance. Alors Sundance, vous voyez tous les films indépendants américains, ils ont réussi à retranscrire ça dans un jeu vidéo. C'est absolument génial. Moi, je suis fan déjà de la musique de Sid Matters, donc avoir fait appel à lui pour mettre tout ça en musique, c'est génial. Le jeu n'est pas sans défaut. On va tout de suite les passer en revue. Les animations auraient gagné à être un peu plus fluides et le fait que les dialogues ne soient absolument pas synchronisés m'a beaucoup gêné au début, mais on est tellement pris après dans l'histoire que franchement ça s'oublie très très vite et je suis totalement plongé dans cette histoire de cette jeune fille qui rentre dans sa ville natale après être partie quelques années pour étudier la photographie et c'est rare dans un jeu vidéo que je prenne un cours de photographie. Vraiment, parce que tu as un cours, tu es dans la salle de classe et tu apprends des trucs. C'est un jeu d'aventure, à la base tiré de Telltale, un peu comme ils ont fait sur les zombies, etc. Mais en amenant quelques nouveautés quand même, parce que là on ne déplace pas un curseur, on déplace la caméra.
Et le personnage, on a le contrôle direct du personnage. Ouais. Voilà. C'est un univers en 3D comparable au TPS.
Super bien fait. Enfin, fait avec, pour le coup,
sur bah, vachement stylisé quoi.
Ce qui se fait dans la moyenne de l'actuel. Voilà, ils ont pas mis des sphères sur voilà, hein, sur plusieurs années. Voilà.
C'est, bah c'est un parti pris artistique donc.
Totalement assumé et le focus est bien mis sur l'histoire et sur l'ambiance. C'est l'ambiance voilà qui ressort en plus. Le petit catch niveau gameplay, c'est que cette jeune fille découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps de quelques secondes, ce qui apporte des mécaniques de gameplay assez intéressantes, surtout sur trois points. C'est-à-dire que, alors, elle peut remonter le temps que de quelques secondes.
Ou deux minutes, quoi, mais.
Oui, enfin, dans la scène où on est. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer un choix qu'on a fait dans un dialogue, par exemple, ou changer un choix important qui est mis en scène par une bordure rouge. Attention, ce choix va être très, très important pour la suite des événements. Donc, vous voyez évidemment tout de suite l'effet immédiat de votre choix. Vous pouvez revenir en arrière et faire l'autre choix. Et surtout, faire votre décision finale en connaissance de cause, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Est-ce qu'il dans les jeux classiques, faudrait faire une sauvegarde, revenir en arrière, essayer de voir ce qui se passe. Là, on vous laisse le choix justement d'expérimenter tout ça et de dire, eh ben voilà, c'est ce choix que je vais faire. Et vous n'aurez plus l'excuse après de vous dire, ah mince, en fait, j'aurais voulu changer. Il va falloir vivre avec votre choix, quelles que soient les conséquences, à long terme. Et c'est celle-là que vous ne connaissez pas. Et je trouve ça très malin quand même, parce qu'on se dit, on a le pouvoir sur le court terme, mais est-ce qu'une décision qui peut paraître intéressante et plutôt positive à court terme va pas avoir des effets dévastateurs dans le troisième ou dans le cinquième épisode ? C'est ça que je trouve super intéressant. Et niveau mécanique, quand on remonte le temps, donc Maxine, donc là l'héroïne ne se déplace pas, donc ce qui fait qu'en gros, elle a comme une sorte de petit pouvoir de téléportation vu qu'elle reste sur l'endroit où elle était en remontant.
Il y a des tout petits éléments de gameplay comme ça.
On sent qu'il y a des tentatives. Alors j'imagine que ça va être développé dans les épisodes suivants, mais on sent qu'il y a des petites pointes de voilà ce qu'on pourrait faire avec ce pouvoir. Elle garde les objets avec elle, donc elle a pu prendre un objet à l'autre bout de la salle et l'avoir sur elle aussi en remontant le temps. Et troisièmement, elle garde évidemment le savoir des dialogues qu'elle a déjà eu. Donc on peut se planter en répondant à une question et revenir en arrière et paraître comme un élève modèle et savoir la réponse avant tout le monde. Non, mais c'est jouissif parce que ça donne une sorte de super pouvoir
super
puissance. Et c'est très malin, je me dis, voilà, c'est des choses qu'on n'avait pas encore vues dans le jeu vidéo. Et le fait de manipuler le temps comme ça à court terme, voilà, sur un truc bien précis, dans une zone contrôlée, on est d'accord, on n'est pas du tout là à vouloir changer un choix qu'on a fait il y a une demi-heure. Mais je trouve ça très intéressant et je suis tombé amoureux de l'ambiance, donc allez-y. Et puis franchement, c'est 5€ un épisode, vous risquez quoi ? Essayez-le et vous verrez bien. Si ça vous plaît, achetez la saison. Et puis si ça vous plaît pas, vous avez perdu que 5€. C'est même pas le prix d'une bière à Paris, ça va.
C'est sûr. Et en plus, il y a la démo. Donc,
En plus. Donc,
si vous allez sur la page du premier épisode. Oui, donc vous allez sur la page du premier épisode et vous pouvez télécharger la démo. Florent, un avis sur Life is Strange ou...
Ouais, bah du coup, moi je l'ai
parce que
dévoré.
C'est à mi-chemin entre indépendant et pas indépendant.
Alors, déjà, je suis content pour Dotnode, en fait, donc Dotnode Entertainment, donc studio parisien qui a fait ce jeu, qui a fait Remember Me avant. Remember Me a été chaotique dans son développement. Ils ont changé d'éditeur, ils ont changé de style carrément de jeu à ce point-là. Donc c'est vrai que ça a été pas simple pour sortir un jeu. C'est vrai que du coup, à la fin, le jeu était très mitigé. Dans sa manière d'être. Et c'est vrai que là, l'accueil critique a l'air largement meilleur, en tout cas pour Life is Strange en globalité. Donc je suis content pour eux déjà de pouvoir un peu se remettre sur pattes après le succès mitigé de Remember Me. Et c'est vrai que Life is Strange, déjà le côté, le fait que tu ne sais pas l'impact, comme tu dis, que peut avoir nos actions. C'est vrai que du coup, moi, je m'immerge dans ce monde et je me mets à la place de la fille. En moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais ça ? Et réellement, je prends mes propres choix. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser totalement à Gone Home, où pareil, je m'immergeais complètement dans le jeu, je me mettais réellement à la place de la fille. Et c'est là que je trouve que le monde marche vraiment bien. Il y a plein d'éléments qui me rappellent, moi, mon lycée. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa.
Ah, c'est marrant ça, j'avais pas vraiment vu la chose comme ça. Moi, évidemment, mon lycée, il est très lointain, mais...
moi, ce qui était l'exemple, c'est que c'était pas mon lycée de secteur, donc j'étais à un lycée plus loin, donc j'ai perdu pas mal d'amis, parce que du coup, j'étais pas dans le même lycée qu'eux, donc j'étais peu...
T'es en plein dedans, là.
C'est... Voilà, j'étais un peu en plein dans le même cas qu'à la fille dans le jeu, quoi, donc...
c'est effectivement un jeu qui est... Bon, alors, c'est très, très, très narratif. Hein. Comme Guillaume le disait,
ah oui,
c'est
faut,
genre tel,
faut
tel, tel game.
Les jeux à histoire. Hein, c'est, voilà.
Il y a très, très peu de gameplay. Hein. Mais cette... donc, si vous n'aimez pas les jeux narratifs, déjà, il faut passer votre chemin. le gameplay... non, pardon, pas le gameplay, mais la narration est... assez étrangement aidé par cette histoire de remonter dans le temps, parce que comme vous l'avez souligné tous les deux, le fait qu'on puisse vraiment... On n'a pas cette pression, c'est tout le contraire des jeux Telltale, on n'a pas la pression de la décision, on peut remonter dans le temps de toute façon, donc on peut prendre le temps de faire le choix, mais effectivement après il faut vivre avec. Et
le choix
donc
n'est pas
ça change la chose.
Officiellement par un décompte, tu vois,
bien
c'est
sûr.
Pas, tu as deux secondes pour faire un choix, fais vite et fais bien, tu
ouais.
vois. Non, on a enlevé cet artifice quelque part,
ouais.
on doit être encore plus avec son choix. Poser.
L'artifice qui servait d'ailleurs dans l'autre type de jeu, mais là c'est juste une partie différente. Je dirais juste que vous avez résumé l'ensemble des choses, donc je ne vais pas aller plus loin, mais pour signaler que l'aspect Sundance est quand même... J'aime beaucoup le jeu, hein. Moi je l'ai dévoré aussi, je vais continuer, enfin, bref, il est très très bien, et pour la question des choix, on ne sait pas si ça va avoir de vraies conséquences, on l'espère, mais on se souvient qu'on avait été un petit poil déçu par les jeux Telltale à ce niveau, parce que forcément, tu ne vas pas développer 15 fins différentes pour que chaque personne n'en voit qu'une seule. Au final, c'est un peu compliqué, mais bon, on va voir ce que ça va donner dans le cas de Life is Strange, mais d'une manière générale, Sundance est tellement exagéré. Ce que je disais
dans
mon émission d'anglais, voilà, c'est ça.
Ouais.
On va presque... On arrive presque à genre la caricature
du
lycée américain vu par les Français qui, tu vois, c'est genre les Américains qui font Paris, ben c'est Montmartre avec les deux chevaux et les rues pavées, tu vois.
C'est le Joe qui fait du football américain, qui est un gros connard, la copine pop-up girl, etc., etc. Oui, ben on est dans
un
des archétypes, hein, clairement.
Un tout petit poil, qu'on retrouve chez les Américains aussi, hein, mais je veux dire, c'est un tout petit poil avec la fille qui... Enfin, l'héroïne, effectivement, c'est la lycéenne un petit peu paumée, qui est un petit peu
la
effacée, mais
coin.
Qui est super bonne, voilà, qui est super bonne en photo, qui prend des photos de trucs bizarres qu'elle trouve poétiques alors que personne ne voit la vraie poésie de ce qu'elle voit. Enfin bon.
Justement, je voilà, lisais les reviews américaines là-dessus et ils sentaient qu'il y avait un petit souci au niveau des dialogues aussi, au niveau des mots utilisés, que certaines
bah là,
expressions
pourtant,
n'étaient pas utilisées par la génération actuelle et que ça sonnait un peu vieux quelque part. Donc tu sentais que c'était écrit par des étrangers quelque part.
Bah, en fait, ils ont pris un Américain pour écrire le scénario,
mais
je ne sais pas si les dialogues...
Qui n'est pas au fait des dernières expressions à la mode apparemment.
Mais bon, donc
enfin,
voilà,
bon,
c'est une petite,
nous,
ouais,
français,
c'est complètement un détail. Si vous aimez les jeux à narration et un petit peu plus actif que Telltale, justement, parce qu'on a le contrôle du personnage. Gone Home est une excellente référence, comme le dit Florent. Enfin bref, c'est un jeu certainement à essayer, quoi. Life is Strange, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Quelques petites news pour finir rapidement. Pokémon a un jeu qui le terrasse. Bon, j'exagère, mais en tout cas, le remplacement
arriver,
s'appelle
là.
Yo-Kai Watch, qui a été annoncé comme arrivant à un moment aux États-Unis. On ne sait pas quand, mais c'est un jeu qui s'est vendu par brouette entière au Japon, donc le fameux Yo-Kai Watch, et c'est un vrai phénomène de société là-bas, donc il faut garder un œil dessus chez nous aussi. Et on a vu un trailer pour Persona 5 il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas si vous êtes fan de Persona 4, mais pour moi, c'est le jeu qui pourrait devenir, enfin le 5 en tout cas, qui a un terrain fertile avec Persona 4, une fanbase fertile pour devenir un truc un petit peu plus qui compte un petit peu plus en Europe aussi, et on verra avec le 5 si ça se produit. Pour moi, il est possible que ça ait un vrai succès quand il sortira en Europe, et le trailer est intéressant. C'est une sorte d'Arsène Lupin dans la grande ville de Tokyo, là où Persona 4 c'était vraiment à la campagne, donc il y a ce changement de rythme et il y a des personnages qui sont des voleurs qui vont faire des casses, et il y a un élément un petit peu plus actif dans les donjons qui sont construits, contrairement à Persona 4 où c'était des donjons un petit peu aléatoires. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais le trailer est intrigant. Il y a une vraie intention artistique là encore, avec tant au niveau du graphisme que de la musique. C'est quelque chose de très très particulier, encore une fois très japonais, le trailer de Persona 5 a regardé quoi. Bon, Dissidia, Final Fantasy arrive en arcade. C'est un jeu qui était sorti sur PlayStation, je sais même plus, PSP ou un truc comme ça. C'est un type de jeu qui a beaucoup de succès en arcade, qui est des jeux de combat en 3D. En 3D, genre, on peut voler, et c'est 3 contre 3 ou 4 contre 4 ou ce genre de choses. C'est un succès énorme. Il y a des Gundam, il y a plein de jeux différents. Ça a énormément de succès en arcade, complètement inconnu en France ou en Europe. L'arcade adopte l'e-payment au Japon. Il y a encore de l'arcade au Japon. Et avec oui. l'e-payment, ils vont enfin pouvoir faire des tarifs différents, faire de la solde à un moment, faire des jeux moins chers, faire des jeux plus chers, etc. On n'aura plus le règne de la pièce de 100 yens qui existe depuis des années et des années. C'est intéressant, l'e-payment, comme c'est en train de s'insérer partout. Et ils enfin, Shin...
Oui, ils, pardon. Expliquaient que, en fait, il y a une augmentation aussi des taxes.
Oui, il s'est passé de 5 à 8% la TVA.
Voilà, donc le fait est qu'ils ne peuvent plus avoir la pièce 100 yens, donc c'est vrai que l'e-payment,
c'est le
meilleur moyen de... continuer avec les gens.
Je vais te taxer le 0,8 à côté au lieu de prendre juste ta pièce de 100 yens. Oui, d'accord.
C'est ça. Exactement, voilà. Donc tu fais 108 ou bah, parfois 150 pour un gros jeu. Bon, ça sera peut-être rare. Ou alors tu achètes un petit peu plus et puis. Enfin bref. L'e-payment est en train de. Il y a Apple d'ailleurs qui est en train de faire des accords avec des constructeurs de machines, de distributeurs automatiques. Donc c'est en train de s'insérer un petit peu partout. Bref.
Tu veux dire qu'on va pouvoir payer son café à sa machine automatique avec son iPhone?
Exactement, exactement. Aux États-Unis, en tout cas, c'est un des développeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un des développeurs, un des constructeurs. Ils ont 200 000 machines aux US quand même.
Ah, donc, quand même.
Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui est en train vraiment enfin de décoller. Shingeki no Kyojin Attack on Titan, un animé hyper, hyper populaire qui est annoncé en arcade par Capcom. Personnellement, je n'ai pas adoré Shingeki no Kyojin. J'ai pas adoré.
Ouais. Mais, l'attaque des titans en français, hein, ça se dit.
Pardon ?
Il est sorti en France, du coup, l'animé et
l'attaque
le manga.
L'attaque des titans, ouais.
L'attaque des titans. Et bon, ouais. Il a une. Que ce soit du coup, au Japon ou en France, il marche d'enfer. Surtout bah, auprès d'un public quand même assez jeune. Moi, j'ai pas trouvé ça forcément. Enfin, il y en a qui est un peu considéré un peu le messie dans l'animé. En fait, toujours le problème, les gens en parlent tellement que quand tu le regardes, bah, c'est moins bien que ce que les gens en disent. Hein. Mais ça, c'est.
Bah, le début est pas mal. Le début est pas mal, mais après, ça se perd dans des trucs allongés, interminables. Ça évolue pas, quoi. Au début, tu te dis, il se passe des trucs incroyables, machin. Et la première saison, en tout cas, c'est interminable, quoi. Il se passe rien. Rien! Ça m'énerve. Bref, il arrive en arcade, développé par Capcom. Donc, les fans de Shingeki no Kyojin, et ils sont nombreux, de l'attaque des titans, ils sont très nombreux. Bah voilà, c'est pour vous, Capcom.
C'est cadeau.
On est donc à la fin de notre épisode qui a été bien rempli et je vous remercie d'y avoir participé, chers amis. Avant de nous quitter, comme toujours, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par, allez au hasard, Guillaume.
Oula, dans la vraie vie, vous pouvez me retrouver sur LCI avec Cédric Ingrand, donc l'émission Plein Écran, l'actu des nouvelles technologies et des jeux vidéo, c'est toutes les semaines, c'est aussi en ligne sur tf1news.fr et sur What. Vous pouvez me lire dans The Game et vous pourrez bientôt me voir aussi dans une nouvelle émission jeux vidéo sur TF1 News. Je vais ressusciter Pixel CI qui était l'émission jeux vidéo de Feu LCI Radio. Qui devrait commencer soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, voilà.
Ah, très bien, bah, tu nous tiendras au courant.
Avec grand plaisir.
On suivra ça sur Twitter aussi. Merci Guillaume et Florent pour ta part. Si on veut un petit peu plus d'indépendanterie, parce que le rendez-vous jeune n'en a pas assez.
Alors déjà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc twitter.com/aeden_.
Quel nom étrange.
Et sinon, si vous voulez parler de jeux vidéo, vous êtes dans l'Ouest, vous êtes intéressé un peu par tout ce milieu-là, donc soit vous pouvez contacter le westindiescollectif.org, qui est du coup le collectif de créateurs autour du jeu vidéo auquel j'appartiens. On essaie réellement de dynamiser la région rennaise et on va dire l'Ouest en général autour de ce média. Et je vous conseille aussi, si vous êtes dans l'Ouest ou pas trop loin, d'aller au Stunfest, qui est donc un festival de culture vidéoludique qui a lieu en mai à Rennes, et d'où il y a des jeux de combat, de l'arcade, des jeux indépendants, des conférences et des concerts. Donc réellement, et des speedruns aussi, il y a aussi des speedrunners, enfin des super players qui viennent. Donc il y a réellement un peu de tout, donc si le milieu vous intéresse, je vous conseille d'y aller, c'est réellement un festival réellement très sympathique. Enfin, moi, j'y vais tous les ans avec un grand enthousiasme.
Bah, c'est très bien. Effectivement, le Stunfest, c'est un truc assez séduisant. Je vais regarder de ce côté-là aussi.
Voilà, des jeux et des galettes saucisses, on va tous y aller.
Voilà, c'est ça.
Des jeux et des galettes saucisses, c'est une fin séduisante pour l'épisode. Avant de se quitter tout de même, je suis NotePatrick sur Twitter et vous retrouvez les notes de l'émission et d'autres émissions aussi sur le site frenchspin.fr. Il y a des émissions qui vous plairont, j'en suis sûr. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous fait plein de bises. Ciao, ciao.